mort du juste. C'était pourtant un Daniel, le curé Perrotin, qui était si longtemps chez Anternou. Il était venu au monde, ici pour être dans ce pays de haut bocage. Et puis le séminaire, les bonnes paroisses où il était passé comme vicaire, Rhin l'avait préparé à venir s'établir dans ce coin de Maraude, les Parisiens appelant le Perrier, et que nous y disons empereur. Quand l'évêque de Lucan l'avait nommé curé chez nous, il était encore jeune, peut-être mes 40 ans. À vrai dire, de se trouver un poids étrange, essentiellement perdu, au commencement. On le changeait tellement. Les gens n'avaient pas le même parlange, pas le même accent. Si bien qu'ils ne comprenaient pas au début ce que les gens disaient. Surtout qu'ils causaient bien vite. Au foire, lui qui était habitué au but puis au chevaux, voyait que d'eau canet, d'eau joie, puis d'eau boricot. Le pays pia comme une punaise à genouille, de lèvres à crever, puis d'ognol, pleine de monde, pour venir à la messe. Où était une autre monde. Oh, il n'y a pas duré longtemps de se trouver étrange. Mais vite, il est devenu un vrai maréchal, comme s'il était venu au monde au mi-temps de potée. On aurait dit qu'il était amoureux de sa paroisse et d'Omaroy. Oh, il était bien capable de parler français. Ces serments que les interjoux sans papier faisant courir le monde pour l'écouter. On n'en avait pas comme lit pour y mêler de mots latins que personne ne comprenait. Mais il était un prédicateur comme païen. Mesdames, quand il était en dehors de l'église, dans les bourrines ou bien au bistrot, là, il parlait maréchal, comme un gars de chez nous. Fallait le voir surtout à la luette, avec les hommes. C'est un plaisir de voir cet homme, le tervirer sa goule, d'une façon, et vite. Personne ne comprenait ses signes, sauf ceux-là qui jouaient avec lui. Puis il avait une façon d'en barlificoter le monde, qu'on le faisait mordienne. On l'entendait de partout, le rigolait de bon cœur, au haut de sa tête. Quand il réussissait, puis quand il était en goût, mettait sur sa tête un chapeau, où il allait vrai bien, un vrai maréchal. Tous les gars d'empereur se disaient que l'avons bien de la chance d'avoir tombé sur un chéri comme tu. Mais faut croire que l'évêque pensait pareil. Il l'a nommé chanoine. C'est un grade qui est réservé aux meilleurs. Aux cérémonies, les chanoines portant une manière de surplis avec des dentelles puis des rimajures et par-dessus une belle croix qui ballotte sur la poitrine. Quand on a reçu cette décoration, le maire d'Empereur a fait un discours qui était belle vérité. Un discours qui a fait brailler les paroissiens. C'est un honneur pour le Perrier et pour le Marais tout entier. Ça, on était vrai. mais où il n'y a pas enfié la tête. Père Pierrotin est resté simple et gentil, comme avant. Un vrai maréchal, un bon chouret. Le père Pierrotin avait un vicaire, bien plus jeune, bien sûr, mais il avait fait la guerre de 14-18. Chez deux hommes s'entendant vraiment. Nous avions sûrement une grande différence d'âge, puis nous n'avions pas la même façon d'envisager les affaires, puis les gens, mais vraiment, on était deux amis. Le vicaire s'occupait d'Eugène. Avant lui, bien sûr, on avait un patronage avec nos pièces par les gars. Madame Paul s'occupait d'eau feuilles. Les gens d'empereur étaient contents de chez Distraction. En ce moment, était vers les années 28-30, on n'en avait pas épais de Distraction dans le Maroc. M. l'abbé, poussé par les vicaires de Chaland, s'était mis à faire une autre chose, la JAC. Rassembler les grades au Marais et au Bourg pour nos réunions dans un local qui était juste en face de la chambre de Churet. Le père Pierrotin biscubait d'eau fouet parce que souvent on l'entendait chez gars qui discutaient, qui s'engueulaient, qui juriant, qui chantant de chansons pas trop correctes. Mais au fond, on était mécontents. Parce que les jeunes se rassemblaient, puis il y en avait qui réfléchissaient. Curé Barotin a ordinairement se coucher de bonne heure. Sa prière dite, le gîter sa soussane, sa culotte, le tâcher de dormir, si les gars de M. l'abbé faisaient pas trop de briques. Une nuit, le venait juste de faire son signe de croix pour se mettre sous la protection de nos saints anges. Il commençait à s'endormir, puis il entend sonner à la porte. Il ne répondit pas tout de suite, parce qu'il se disait, c'est encore les galopins du patronage. En s'en allant de leur réunion, le faisant de temps en temps une farce au pasteur. Un deuxième coup de sonnette, plus vigoureux. Je reste lève, enfile sa soutane, boutonne deux ou trois boutons pour être plus convenable, garde tout de même son bonnet de nuit, parce qu'on faisait mauvais temps. C'est la nouvelle lune. Qui est là? C'est moi, Fernand, le gars au père Louis, la Bigaudère. Papa le va pas. Faut venir vite. Descends, mon gars. Faut vous dire que le père Louis de la Bigaudère était un paroissien, une amie. Il faisait partie du conseil de fabrique. Deux ou trois fois par an, le père Pierrotin réunissait son conseil pour signer les papiers de l'évêché, puis voir un peu où en étaient nos finances de la paroisse. Le père Louis était un brave homme. Il disait pas grand-chose, il était toujours d'accord, mais à quelques réflexions qu'il faisait, on sentait bien que c'était un homme de bon sang, puis un bon chrétien, puis juste. jurez, mes belles pères Louis. Elle est souvent à la Bégodère, pourtant pas la porte à côté. Mais elle se trouvait à l'aise dans cette maison. Père Pierrotin, qui avait l'air de tout régler par lui-même, écoutez les conseils d'au père Louis. Puis à la Bégodère, où elle avait un mère Philomène, la femme d'au patron, à porte baissée 75 ans. Quand on savait que M. Curé allait venir, a passé toute sa matinée à préparer ses orgueils à la tartare. Une recette que M. le curé Perrotin lui avait donnée et qui réussissait comme païenne. Il fallait deux orgueils assez grosses. Qui était qu'à mettre à cuire dans ces trois ou quatre pots qui mijotions sur ces creux remplis de baisettes que bonne femme avait dans son potager, je sais déjà. Il ne fallait pas y demander. Mais te vois, et toi, qu'elle était bon. Qu'elle était bon. Personne ne prépare les anguilles à la tartare comme vous, ma bonne Philomène, disait Churé, qui était un peu gourmand. Personne, pas même ma bonne. Une bonne qui avait pourtant été dans un château, chez un monsieur d'eux. Ah, Josué Perrotin, j'étais un curé d'autrefois. Qu'on n'allait pas se m'en voir pour payer sa pièce de banc, pour commander nos messes, mais à qui on pouvait dire toutes ces misères. Confier nos problèmes qu'on n'aurait pas dit à ses parents. L'écouter. J'étais un homme de bon conseil. Un homme de paix. Elle jurait qui descend. Pas de sa soutane, elle avait mis un grand cache-nette. Parce que le temps était mauvais. Et un vent norrois balayait le marais. Un voisin du curé, qui avait été embarqué à Saint-Gilles pour quelques saisons de sardines, lui avait appris une belle expression. On faisait une brise à arracher les poils de mon bouc. Mais il s'agissait d'une question de ministère. Il s'agissait d'une amie. Pas de question. Allons-y, mon gars. La Fernand et M. le curé en route par la Bégodère. Au début, nous avons essayé de dire le chapelet. Mais nous avons vite arrêté parce que le vent leur coupait la goule. L'arrivant passe en bain au charreau qui conduit à la bourrine. Mais ce pauvre chemin et des pieds ni capoule, tant et si belle que la bicyclette de Churet a crevé à l'avant. Heureusement, on l'avait tout près, la bourrine d'un gars qui avait son aîné qui travaillait chez un marchand de vélo. Il n'y a pas ce qu'il faut pour réparer, mais il va passer ma roue. Demain, vous pourrez aller jusqu'à la Bégodère. Il passerait à la cure cette semaine. Le juré était d'une impatience. Il avait le feu sous la pierre. Il ne sait même pas s'il a dit merci. Les vêtements des deux partis par la Bégodère. Mais ils n'étaient pas rendus. On avait un grand bout de chemin à faire en yole. Le mari était habillant. Et il faut bien connaître les envers pour ne pas s'y perdre. Comme la lune d'aune, au fêtière sur le maraud. Mais il s'est dit qu'il était nouvelle lune, et au respect, on faisait noir comme dans le cul d'un nègre. Mais Fernand avait bien trop l'habitude de chaud pays, pas s'égarer. Il savait partout qu'il fallait virer. Ce n'est pas un coup de nain de travers. Et mon Dieu, l'arrivant enfin à la Bégodet. Philomène était devant la maison, avec ses deux feuilles, Marie et Marguerite, deux vieilles feuilles, qui étaient réservées pour soigner les vieux parents. Tout de même, autrefois. Le curé donne sa bénédiction, répond à peine au bonjour et se dirige en courant vers le grand lit à Cneuil où le père Louis se débattait avec la mort. Trouve plus le vin bon, avait confié Marguerite. J'hésite pas pour diminuer son inquiétude. Au père Perrotin. Père Louis, c'est votre curé, le père Perrotin, votre ami, qui vient vous voir. Père Louis, si vous m'entendez, serrez-moi la main. Rien. Aucun signe. Le père Louis est perdu, juge le père Perrotin, qui avait l'habitude. Je vais lui donner l'absolution. Mais tu vois, genoux les femmes, et réciter le confesse à Dieu, puis l'acte de contrition. Les trois femmes obéissent, et le vieux curé, en pleurant, donne le pardon au bon Dieu. Après, le curé pouille son surplis par l'extrême onction. Parce qu'on dit, sacrement d'eau malade, que tant on disait l'extrême onction, c'est pareil. Avez-vous de l'eau bénite, Philomène? Oui, monsieur le curé, il y en est de la dernière Pentecôte et de la boude. Le curé n'a pas répondu. La deux affaires, on ne veut mieux pas répondre. La rachide un ramia béni à la tête d'Oli, trempit le rumia dans l'eau bénite, puis en garocha un grand coup sur le malade. Tout à coup, il entendit une parole. C'était le père Louis qui parlait. On l'avait si longtemps qu'ils l'avions pas entendu. Mais il avait une bonne voix encore pour dire « Philomène, ferme dans la trappe, il sent les rats qui me pissent sur la goule. » Philomène se précipitait sur le bonhomme, puis il dit « Tiste dans, Louis, et me sucrer qu'au fait. » Gros temps. Ah, s'il avait vécu 200 ans plus tôt, Adrien aurait été un de ces marins que Surcouf aurait aimé engager à bord de son bateau corsaire. Dans la royale, il est de tradition de citer la fameuse définition que l'on prête, à tort d'ailleurs, à Littré. Marin égale individu servant à la manœuvre des bâtiments et se nourrissant principalement d'alcool et de tabac. La définition s'appliquait admirablement à Hadrien, avec ses corrections importantes, qu'Hadrien ne fumait jamais et qu'il ne buvait pas d'alcool. Mais que de vin rouge il a enfuté au long de son existence. Deux hommes en lui. Le marin, meilleur du port, ayant le sens de la mer, le sens du poisson, fort comme un turc, une vue infaillible qui lui faisait deviner la matte de sardines avant tout le monde, connaissant toutes les coursives où se cachaient les barres. L'homme, fier de sa force, de son succès, secourable pourtant, et gentil, charitable. Et sorti de là, le passionné de pinard, incapable de refuser un verre de vin. Vraiment, Hadrien n'était pas fait pour jeter son sac à terre. Un oiseau de grand large, voilà ce qu'il était, et qui ne mettait sa valeur que lorsqu'il avait largué les amarres. Mon amitié pour lui se nuançait de pitié. Comment se fait-il qu'un si bon gars et si peu de volonté. Pourtant, il aimait sa famille, ses gars, sa femme, Aline. Il les aimait d'un amour d'homme, loyal et fort. Mais il était comme un enfant devant la boisson, incapable de résister. Tel quel, il était singulièrement attachant. Et n'importe qui ne pouvait s'empêcher d'admirer ce diable d'homme à la stature peu commune. Quant à moi qu'il connaissait par cœur, il l'aimait comme un frère. Je me souviendrai toujours de ce matin de printemps où, après ma messe matinale, je disais mon bréviaire près de la chaire de mon église. Il était environ 8 heures du matin. Oh, j'étais bien seul dans le Saint-Lieu. Entre Hadrien. Et sa démarche annonçait que, rentrant de la mer, il avait fait quelques stations dans les bistrots du port. Fait ses dévotions devant l'autel, bien pieusement, s'attarde devant l'autel de la Sainte Vierge, laisse une large offrande dans le tronc, se retourne vers l'autel, étend ses deux grands bras en face du crucifix. On n'en a pas rien qui me baisera, proclame-t-il. Et il sort, sans me remarquer. Il était abasourdi. Mais un jour d'automne, Aline vient me dire « Hadrien va pas. » Il s'inquiète pour lui. « Vous devriez venir le voir. Je vous aime tant. » Je me précipite au pare et vois un grand lit au milieu de la place, un grand lit à quenouilles avec un amas d'édredons dessus. Adrien est là, dessous, ben au chaud, couvant un rhume énorme, une bonne bronchite plutôt. J'écarte un édredon, puis un autre, et découvre mon gaillard, ruisselant de sueur, luttant avec l'énergie d'un marin qui ne veut pas lâcher la barre. Faisant encore son œil, tout rempli de courage, quand même. Pas le moment de mollir. Alors, Adrien, comment qu'on marche ? Une réponse. En cap. Encore une fois, il époulait la vague. Comme à bord de son bateau, par gros temps. En cap. Qui dit mieux ? Une vache maraîchine. Je ne pouvais même pas dire qu'il était une petite borderie. C'était ce qu'on appelle chez nous un creux de maison pour que c'était retiré à leur retraite, Maximin et puis Jenny. S'habitant auparavant à la Rendère, une ferme de M. Nourry. La Rendère était une ferme de 12 hectares qui était bête trop petite pour élever convenablement les 8 enfants. L'avion bémiséré, une gens. Et il avait fallu que dès le certificat et le deuxième communion, les drôles et les drôlesses s'égagiant pour gagner Cuxou, que le Dugnon d'ailleurs au père Maximin, et surtout pour débarrasser la maison. Enfin, nous n'avions plus travaillé. Les enfants étaient surtout partis à Paris, en Charente ou ailleurs. On n'avait qu'un qui avait pris la ferme de la Rendère, parce que le propriétaire était habitué à ses fermiers et à l'urnan. Les parents s'étaient calés dans une bourrine qui était au bord du Charau et qui servait d'abri aux vaches les jours de mauvais temps. Maximin, qui faisait tout ce qu'il voulait de ses mains, avait passé de la chaux, bénitié les murs et les abords, mis nos carreaux à la fenêtre, l'avait même passé un coup de peinture sur la porte, une affaire qui n'était jamais arrivée. L'avait fait une nouvelle pièce avec de la terre de marron qui venait dure comme de ciment à sécher. Il n'avait pas fallu longtemps pour faire un tête à poule et à lapin, mais elle avait fait aussi un thé pour une vache. Vous me direz qu'il n'était pas le besoin que l'avion, pour regarder qu'il y a une bête. Mais on leur servait de compagnie. Et puis, si petit qu'elle a porté d'Olette, à l'urage, Maximin et Génie n'avaient pas besoin de grand-chose pour leur vie vêture. Cette bête trouvait à manger sur le bord de la route, puis ses bouses servant pour fumer le jardin. Enfin, les interviews, tous les trois, sans histoire. De temps en temps, Maximin et puis Génie retournaient à la rondère. Quand on était les foins ou les métives. Génie aimait bien ça, puis elle faisait si belle meuille. Sa belle feuille avait jamais pu rattraper son tour de main. Alexandre aussi, un ancien voisin, leur demandait un coup de main de temps en temps. La vache se gardait toute seule, puis elle avait l'habitude de rentrer le soir quand son remeil y tirait. Un jour, dit-on parti chez Gabriel, on faisait noir depuis une heure. Génie prit son cerdelet, sa torpette pour éterrer sa vache. Maximin, la vache n'est pas là. Maximin était presque couché. Puis il avait bu un bon coup chez son gars. La voix de Génie y rappelle qu'on avait une bête à la maison. L'enfile s'est sur le tapant. Appelle gentil, gentil. Va voir jusqu'à la route. Pas de gentil. Nos pauvres vieux sont au 100 coups de leur vie. Tournant, virant. Hein. Allons nous coucher. Il a trop rombé demain matin. Le lendemain matin, le passant toute la journée à chercher gentil. Les voisins ne l'avaient pas vu, pourtant la connaissaient bien. Maximin pensait, pourvu qu'elle ne s'est pas tombée dans l'étier, elle ne pourra pas s'en tirer. Il avait rendement avec son ventre gonflé, balayé sur lèvres. Quant à Génie, qui était plus maline, elle disait garantie qu'elle ait été baisée par les caressures. Cherchant le pauvre monde, cherchant rien. Génie braillait, Maximin braillait pas, mais n'en pensait pas moins. J'étais toute une page de leur vie qui était en train de se tourner. Dans le grand lit à Quenouille, ne pouvions pas dormir. Tout à coup, Génie dit à Maximin, pense à quelque chose. Tu sais bien ce qui est arrivé à Céleste, qui avait perdu sa montre. Eh bien, elle osa dit à M. le curé, qu'osa dit en chair, eh bien, elle a retrouvé sa montre dans la semaine. Si faisions la même chose pour notre vache. Maxima disait. Entendu ce qu'il te dit? En vos béquilles, tout en fous pas mal de ta vache. Qu'il bite, notre bite. Si, mais il ferait pas ça. Maxima a été aussi têtu que sa femme. Sur le coup de 3 heures du matin, Jenny, qui était réveillée, dit à son bonhomme, Annette, les dimanches. Faut qu'il en parle à M. le curé. S'il ne veut pas, il irait tout seul. Il est sûr qu'il le fera. De ce bec comme de service. Maxima disait rien. Et Jenny avait compris qu'elle était d'accord. T'as pas besoin de causer. Je vous ferai. Ah, il connut le curé de Châtianu. La queue sur la main. La grand-messe de Châtianu était à 11 heures. Et Maximin, qui avait été enfant de cure, étant jeune, savait comment on se passait. C'est toujours pareil. Les choristes, prenant leur surplis, leur soutane, puis leur surplis, dès les premiers coups de pioche, à 11 heures moins le quart. Quand les pioches, arrêtant à 11h moins 5, le curé arrivait et les enfants de cœur prenant leur cabane rouge. 11h moins 5. Ce curé arrive, allure, comme s'il avait une horloge dans le ventre. Il voit Maximin. Et puis Jenny, qui était dans la sacristie, en grand silence, parce que la sacristie fait partie de l'église, en les voyant, ce curé a cru qu'elle avait un mort à la maison. Jenny dit, on n'est pas ça, monsieur le curé, mais ils ont perdu notre vache. Perdu votre vache? Donc perdu notre vache. Rapidement, Jenny explique l'affaire. Le curé qui était pressé, parce que l'horloge, donc je sais souligner en jure, dit à Maxima et à sa femme, je l'annoncerai en chaîne, je vous promets qu'on retrouvera votre vache, soyez en paix. Je note sur son livre d'annonce, tape dans ses mains par les enfants de cœur, puis il s'en va faire son asperges. Maxima et puis Jenny sortant de la sacristie, faisant le tour de l'église pour rejoindre leur pièce de banc, à droite dans le fond. Tout à coup, Jenny dit à Maxima, ils n'ont pas dit à M. le curé comment qu'elle était notre vache. Oh, dit Maximin, cette bête, s'il était encore de tout au monde, elle se trouvera bien. Alors, pendant qu'ils y sont, faut tout dire. Comme sur le curé, au juge sera ton cher, tu te lèveras, puis te dira comment qu'elle est. Il n'en ferait pas. À cause. Parce que, et pas à moi de parler dans l'église. Songez pas chez nous, dans l'église. Monsieur le curé trouvera rien à dire. Je ferai pas. T'as qu'à faire, toi, Jenny. Quand monsieur le curé annoncera l'affaire, t'as qu'à te lever pour pied au dire. Tabé la goule à Servzeille pour te tirer d'affaire. Ben oui. Mais tu sais que c'est censément sourde. Tu n'entendrais pas quand on sera le moment. Il te pousserait, t'en veux pas. On était le temps d'au foin dans le marais. Le temps où les hommes travaillant dur jusqu'à hauteur dans la nette. Puis vous êtes une chaleur à cavaille. Et quand même les murs de l'église de Châtianu étaient bien épais, on faisait dormir tout le monde. Même Marie Brault, cette vieille feuille qui était présidente aux enfants de Marie et qui perdait pas un mot de ce que disait le père Giraudot, le curé de Châtianu. En chair, le curé qui voulait pas prêcher à cause de toutes ces annonces à faire, téléprocessions, télécommunions, faisait durer les affaires. Le Terminator joue ses annonces, comme tous les curés de Vendée, par les publications de mariage. Le disant ce qu'il avait à dire, il était rendu à la troisième annonce de mariage, la promesse de mariage entre Raoul Proutot, fils majeur d'Eugène Proutot et de Marie Ravon, et Fernand Bétu, le bout d'homme qui dormait, comme tous les autres, tombé sur sa bonne femme, qu'attendait le signal, à Sleuv, en un virement, et dit au haut de sa tête, elle a le poil noir, puis une tétine de moins. Le somnifère. Si vous l'avez une paroissienne que le curé aimait pas, elle aimait la mère Rose. Toute sa vie, elle avait fait bisquer son pauvre bonhomme, Firmin, qui était la crème du monde, qu'aurait pas dit à un enfant, t'as menti, mais qui savait pas dire non quand elle était sa bonne femme qui commandait. Le bonhomme était mort depuis 10 ans, à force de bisquer, disant les mauvaises langues. Mais la mère Rose était arrangée pour trouver une autre souffre-douleur, c'était son gars, Arsène. Arsène qui était un vieux gars, du genre de père Firmin, était patient, trop patient. La mère Rose allait sur ses 85 ans, puis elle s'arrangeait pas. Arsène, va chez monsieur le curé. J'ai besoin de le voir. Tu y diras qu'au presse. Parce que le curé, qui connaissait bien la bonne femme et qui avait été baisé 2 ou 3 fois, t'es pas trop ardent pour s'en aller faire qu'au chemin. Arsène va donc chercher le curé. Maman veut le voir. Qu'est-ce qu'elle a? Elle me l'a pas dit, le médecin est venu. Allez coucher. Le curé se coule la tête et pense en lui-même, Rose, et de ces gens qu'il faut tuer pour en être débarrassé. Puis il reconnaît que c'est une mauvaise pensée. Prend son sac des malades, puis s'en va avec Arsène en vélo. Rose est dans son lit, en se nassiant, en train de dire son chapelet. Ah! Monsieur le curé, je suis si contente de vous voir. Alors, mère Rose, comment ça va? Vous avez bonne mine? De fait, la vieille avait le teint frais comme une égaille. Ben oui, mais il ne peut pas dormir. Il faut dormir, mère Rose, il faut dormir. Monsieur le curé, faisiez maintenant un de vos petits serments. Moi qui dors si bien, quand vous prêchez.